VOA Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour, Le Monde aujourd'hui, édition du vendredi 24 mars 2017, en direct de Washington. Idrissa Sidoudia et Anne Albertson. Pour commencer, les titres.
En République centrafricaine, plusieurs personnes ont été tuées dans les préfectures de la Waka et de Mbounou.
Au Tchad, enlèvement hier d'un employé français d'une compagnie minière dans l'est du pays.
Au Cameroun, comparution devant le tribunal militaire de Yaoundé d'une trentaine de personnes, poursuivies notamment pour terrorisme.
Nouveau drame en Méditerranée, environ 150 migrants africains seraient morts dans le naufrage de deux canots gonflables.
Ici à Washington, le président Donald Trump exige un vote aujourd'hui même sur l'abrogation et le remplacement de l'Obamacare, quelle qu'en soit l'issue.
Et ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal.
En Centrafrique, un député a avancé que plusieurs personnes ont été tuées dans le village de Yassine, dans la préfecture de la Waka. Par ailleurs, au moins 20 personnes ont été tuées dans des combats entre des rebelles de l'UPC, l'Union pour la paix en Centrafrique, et des anti-Balaka à Bakouma, dans la préfecture de Mbounou. Le point avec Vladimir Montero, porte-parole de la MINUSCA.
Je ne peux pas confirmer ces chiffres. Les seules informations concernant les combats dont nous disposons, une autre localité, celle de Bakouma, au sud de Bria, partie est du pays, mais également à Agoudoumanga. Bakouma avait été la cible d'attaques de groupes armés en début de semaine. Nous ne connaissons pas le bilan. Nous avons déployé immédiatement une patrouille. Malheureusement, le pont qui permet d'accéder à cette localité a été volontairement détruite par des hommes armés. Nous avons entre-temps dépêché une équipe technique pour essayer de réparer cette infrastructure et permettre justement l'accès dans la zone. Pour cette raison, on ne peut pas parler de bilan. Ce que nous savons, c'est qu'il y a eu également au nord-est de Bambari, dans la localité d'Agoudoumanga, également des affrontements avec des anti-Balaka. Nous avons déployé une patrouille pour sécuriser la zone.
Au Tchad, un Français employé d'une compagnie minière a été enlevé jeudi matin dans l'est du pays. Le point avec Morgane Guériec.
Tous les moyens sont mobilisés pour obtenir sa libération, a indiqué une source militaire française à des journalistes. L'information a été confirmée par le ministère français des Affaires étrangères et le ministre tchadien de la Sécurité publique. L'homme a été enlevé dans une localité située à 50 km de Gosbeida, à 200 km au sud d'Abéché, a indiqué Armat Bachir, précisant qu'il s'agit d'un employé d'une entreprise privée. Des recherches ont été déclenchées dans toute la région afin de trouver la victime et ses ravisseurs, affirme le gouvernement. Le dernier enlèvement d'un Français au Tchad remonte à 2009. Laurent Meurice, un agronome travaillant pour le Comité international de la Croix-Rouge, avait été kidnappé dans l'est du pays. Une prise d'otage revendiquée par un groupe soudanais du Darfour, les Aigles de Libération de l'Afrique. Il avait été libéré le 6 février 2010, après 89 jours de détention.
Au Cameroun, une trentaine de personnes poursuivies notamment pour terrorisme en rapport avec la contestation menée par la minorité anglophone du pays ont comparu hier dans trois procès successifs devant le tribunal militaire de Yaoundé. Des détails avec John Lyndon.
L'un des procès qui vise trois figures de la contestation, Félix Agbor Nkongo, avocat, Neba Fontem Aforteka, enseignant, et Mancho Bibisi, dit Bibisi, animateur de radio, a repris hier jeudi, plus d'un mois après son ouverture mi-février. Monsieur Agbor Nkongo et Neba Fontem sont deux figures de la Cameroun Anglophone Civil Society Consortium, une organisation favorable au fédéralisme qui a été interdite en janvier. Mancho Bibisi est présenté comme l'un des chefs de file de la révolte dans son épicentre Bamenda. La minorité anglophone, environ 20% de la population estimée à 22 millions, s'est dit marginalisée par les francophones. Suite aux manifestations et aux appels très suivis aux journées Ville morte depuis novembre, le gouvernement a coupé Internet dans les deux régions anglophones depuis le 17 janvier, soit plus de deux mois, un record en Afrique. Les autorités ont également procédé à l'arrestation de plus de 80 personnes, d'après les chiffres officiels. Interpellés en janvier, les accusés sont poursuivis pour actes de terrorisme, sécession, révolution, insurrection, incitation à la guerre civile, selon l'acte d'accusation, des charges passibles de la peine de mort. Leurs avocats ont introduit une demande de remise en liberté provisoire qui sera examinée le 27 avril, a assuré le tribunal.
En Mauritanie, l'opposition dénonce le passage en force du président Mohamed Ould Abdelaziz, qui a annoncé son intention de faire adopter son projet de révision constitutionnelle par référendum. Claire Morin-Gibourg.
Moins d'une semaine après le rejet du Sénat du projet de révision de la Constitution, le chef de l'État mauritanien a annoncé qu'il allait emprunter une porte de sortie, c'est-à-dire le référendum. Mais l'opposition radicale réunie au sein du FNDU, le Forum national pour l'unité et la démocratie, hostile à ce projet, a mis en garde contre un précédent qui pourrait faciliter à terme une éventuelle modification de la limitation à deux du nombre de mandats présidentiels. Moussa Fall, président du FNDU, a prévenu « La porte qu'il ouvre peut dangereusement conduire à lever les verrouillages sur le troisième mandat présidentiel ». Pour lui, il s'agit ni plus ni moins qu'un énième coup d'État. Arrivé au pouvoir par un putsch en 2008, M. Ould Abdelaziz, un ancien général, a été élu en 2009 et réélu en 2014 pour un second mandat de 5 ans. Élaboré lors d'un dialogue en 2016, ce projet de révision a été approuvé par l'Assemblée nationale, mais repoussé par le Sénat. Pour contourner ce blocage, le chef de l'État a déclaré mercredi soir qu'il allait soumettre le projet à référendum conformément à l'article 38 de la Constitution.
Les forces maritimes de 31 pays du Golfe de Guinée, d'Europe, d'Amérique du Sud et des États-Unis ont commencé hier des manœuvres maritimes dans le Golfe de Guinée. Ces manœuvres sont destinées notamment à lutter contre la piraterie, la contrebande et les déversements de produits pétroliers, a annoncé jeudi l'ambassade américaine en Côte d'Ivoire.
Les autorités de Brazzaville ont confirmé hier soir avoir expulsé deux journalistes italiens venus faire un reportage au Congo, mais ont démenti qu'ils aient fait l'objet d'une arrestation arbitraire, comme l'affirme Reporters sans frontières. Ces journalistes sont entrés au Congo avec des visas touristiques, a déclaré à l'AFP le porte-parole du gouvernement congolais. Les deux journalistes enquêtaient à Pointe-Noire sur une vaste affaire de corruption portant sur des pots de vin entre la société italienne Eni et des officiels nigérians. Le groupe Eni est présent au Congo comme au Nigeria.
Nouveau drame en Méditerranée, environ 250 migrants africains seraient morts dans le naufrage de deux canots gonflables qui ont été repêchés jeudi au large de la Libye par une ONG. L'ONG espagnole Proactiva Open Arms a récupéré 5 corps d'Africains âgés de 16 à 25 ans environ, flottant près des canots à une quinzaine de milles des côtes libyennes.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ici à Washington, le président Donald Trump tentera de conclure ce vendredi l'abrogation de l'Obamacare en la soumettant au vote de la Chambre des représentants où le soutien des membres de son propre parti républicain reste incertain. Le point avec Jean-Roger Bion.
Donald Trump n'a pas réussi jeudi à convaincre suffisamment de républicains contraignant la Chambre des représentants à différer hier son vote. Les républicains les plus conservateurs, affiliés au Freedom Caucus, estiment que le nouveau texte ne diffère pas assez de l'Obamacare, tandis que les modérés craignent à l'inverse que la proposition de loi ne revienne à accroître le nombre d'Américains sans couverture maladie. Mais le directeur du budget de la Maison-Blanche a déclaré jeudi soir, lors d'une réunion des républicains de la Chambre, que le président avait fini les négociations et voulait un vote vendredi, selon le représentant de New York, Chris Collins, proche allié de Trump. Le président a dit qu'il voulait un vote demain pour ou contre, a fait savoir à Chris Collins. Si pour une quelconque raison c'est contre, nous allons continuer à avancer sur d'autres parties de son programme, comme des réformes fiscales, a-t-il ajouté, et Obamacare restera en place. À l'issue d'une réunion au Congrès entre responsables de la Maison-Blanche et dirigeants de la Chambre, des députés ont confirmé à des journalistes que le vote aurait lieu aujourd'hui. Selon le représentant Mark Meadows, président du groupe conservateur Freedom Caucus, des amendements de dernière minute sont à l'étude, mais le soutien nécessaire à l'adoption du projet reste incertain. « Je reste optimiste quant à la conclusion d'un accord », a-t-il cependant déclaré.
L'auteur de l'attaque qui a fait 4 morts et une quarantaine de blessés mercredi à Londres, revendiqué par le groupe État islamique, était un Britannique de 52 ans nommé Khalid Massoud, a annoncé jeudi la police britannique. Quelques centaines de personnes se sont réunies hier soir à Trafalgar Square, place emblématique du centre de la capitale, pour une veillée en hommage aux victimes. Les Londoniens ne se laisseront pas intimider par le terrorisme, a promis à cette occasion le maire de la ville, Sadiq Khan.
Le Conseil de sécurité de l'ONU a fermement condamné hier les essais balistiques menés les 19 et 21 mars par la Corée du Nord. Il a dénoncé, je cite, son attitude de plus en plus déstabilisante et son mépris flagrant et provocateur pour le Conseil de sécurité. Cette condamnation intervient alors que des militaires américains ont indiqué hier avoir décelé une activité autour des sites d'essais nucléaires de la Corée du Nord, laissant penser que Pyongyang prépare un nouveau test. Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Écho, Jacques Aristide.
Au Nigeria, d'anciens militants dans la région pétrolifère du Delta du Niger exhortent le gouvernement à verser les indemnités mensuelles dues en vertu de l'amnistie de 2009. Ils menacent d'entraver la production de pétrole si Abuja n'honore pas ses promesses, qui incluent également une formation professionnelle. Les autorités ont évoqué un manque d'argent, de même que des cas de corruption au niveau du programme. L'année dernière, les attaques de militants avaient réduit la production de brut d'un tiers. Le mauvais temps au large de l'Angola empêche les pétroliers d'entrer dans les ports de Cabinda et Benguela, causant des pénuries dans les stations-service et des pannes d'électricité, d'après la société d'État Sonangol. Elle pointe également un manque de coordination entre les agences gouvernementales. Membre de l'OPEP, l'Angola rivalise avec le Nigeria en tant que premier exportateur africain de pétrole, mais doit en importer par manque de capacité de raffinage. La Banque des États de l'Afrique centrale projette en 2017 une croissance d'1,6% dans la zone CEMAC. Il s'agit d'une reprise après le ralentissement de l'activité dans les 6 pays membres, Cameroun, Centrafrique, Congo-Brazza, Gabon, Guinée équatoriale et Tchad.
À présent, les sports avec Nicolas Pineau. Nicolas, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Série de matchs amicaux en football en Afrique.
Alors que 6 équipes disputent le tour préliminaire des éliminatoires pour la CAN 2019, d'autres préparent la phase de groupe qui débutera en juin, ainsi que la suite des qualifications pour le Mondial 2018. Hier, le Kenya et l'Ouganda ont fait match nul, un but partout à Machakos. Et ce vendredi, à Alexandrie, le Togo affronte la Libye. À Krasnodar, la Russie accueille les éléphants de Côte d'Ivoire, désormais entraînés par Marc Wilmots. La Mauritanie à Nouakchott accueille le Bénin. Le Cameroun en déplacement à Monastir pour jouer face à la Tunisie. Le Burkina Faso lui ira au Maroc, à Marrakech, pour jouer contre les Lions de l'Atlas. Et puis au Havre, en France, la Guinée face au Gabon. À suivre demain à Dar es Salaam, Tanzanie-Botswana. À Durban, l'Afrique du Sud contre la Guinée-Bissau. Et le duel lusophone, le Mozambique contre l'Angola à Maputo. Dimanche, la République démocratique du Congo jouera contre le Kenya.
Course au Mondial 2018, les États-Unis n'ont plus le choix.
Après leur catastrophique mois de novembre qui a coûté son poste à Jürgen Klinsmann, les États-Unis n'ont plus le droit à l'erreur contre le Honduras ce vendredi et le Panama mardi prochain. Crucifié en fin de match par le Mexique, puis humilié au Costa Rica 4 jours plus tard, Team USA pointe à la dernière place du 5e et dernier tour de qualification de la zone CONCACAF.
En Europe, le duel à distance se poursuit entre l'Espagne et l'Italie.
Oui, l'Espagne et l'Italie, à égalité de points dans le groupe G, vont tenter de ne pas perdre du terrain ce vendredi lors de la 5e journée de qualification de la zone Europe pour le Mondial 2018. La Roja, qui devance la Nationale seulement grâce à une meilleure différence de but, accueillera Israël, tandis que l'Italie recevra l'Albanie dans le même temps. Dans les groupes D et I, 2 chocs sont au programme, R, Pays de Galles et Croatie-Ukraine.
Pas de Super League en Europe.
Oui, le directeur des compétitions de l'UEFA, Giorgio Marchetti, a rejeté hier l'idée d'une Super League européenne réservée à certains grands clubs. L'homme des tirages au sort de l'UEFA a cependant reconnu que les compétitions européennes, et notamment l'AC1, doivent changer afin de rester les plus grandes compétitions de clubs du monde. Allez Idrissa, avec vous quelques résultats de NBA, le championnat de basket nord-américain.
Phoenix et Brooklyn Nets 98-126, Toronto et Miami 101-84, Los Angeles Clippers et Dallas 95-97 et Memphis et San Antonio 90-97.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sédoudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Burkina Faso, on a appris hier la mort d'un certain Haruna Diko. Il s'agit d'un présumé terroriste qui aurait perpétré plusieurs attaques dans le nord du pays. 18 personnes ont été interpellées. Ibrahim Maïga est un journaliste qui connaît bien la région du Sahel. Bagassi Koura lui a demandé s'il y a un lien de parenté entre Haruna Diko et Ibrahim Malam Diko, le chef du groupe djihadiste Ansarul Islam.
Le nom de famille Diko, ce n'est pas forcément un lien de parenté direct, mais tout le monde est parenté.
Alors, on parle de l'arrestation de 18 autres personnes. À votre avis, c'est un gros coup pour les forces de l'ordre burkinabé?
Nous attendons de voir ce que ça va donner, parce que si tel est le cas, comme ils le disent, ça fait quelques éléments nuisibles de moins.
On a vu que les fonctionnaires, notamment les enseignants, sont en train de quitter la région du Nord. Est-ce que ces groupes djihadistes, on peut les comparer un peu à Boko Haram?
C'est ça l'idéologie des groupes terroristes qui sévissent dans la zone. Ils disent que l'éducation du type classique, l'éducation du type occidental est une valeur qui est contraire aux valeurs de l'islam qu'ils prônent. Donc pour cette raison, pour eux, c'est le minimum de s'en prendre à tout ce qui symbolise cette éducation-là.
Et qui est Malam Diko, le chef d'Ansarul Islam?
Madame Diko était natif de la zone du Soum et de la province du Soum.
Dans l'extrême nord du Burkina.
Qui avait là-bas pendant un temps, qui a fait des études coraniques un peu au Mali. Et il fut un disciple de Amadou Koufa. Après, il a séjourné au Niger où il a poursuivi ses études coraniques avant de revenir encore dans la zone et fonder son association. Et l'association qu'il a utilisée pour se faire un nom, pour essayer de prêcher son idéologie et se faire des disciples pendant des années. Entre-temps, la radio locale au niveau de Gibo lui servait de voix pour partager sa vision avec les gens. Et avant d'essayer de rejoindre les djihadistes au nord Mali, là, il avait été arrêté par les forces armées françaises. Il était en possession d'une arme et livré aux autorités maliennes qui l'ont gardé en prison pendant 2 années. Après avoir purgé cette peine, il est revenu au Burkina tranquillement pour suivre ses activités.
C'était Ibrahim Maïga, journaliste joint ici aux États-Unis.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 au Burkina Faso, à Ouagadougou sur le 102.4 FM.
Les enquêteurs de l'ONU déployés dans la région du Kasaï estiment à près de 17 le nombre de fosses communes liées aux violences entre miliciens Kamuina Sapu et forces de l'ordre, selon le sous-secrétaire aux droits de l'homme des Nations Unies, Andrew Gilmore. Au micro d'Eddie Isango, le secrétaire général de la Fédération internationale pour les droits de l'homme pour l'Afrique, Paul Sapu.
Les gouvernements qui exécutent les populations civiles de façon extrajudiciaire, sans sommation. Et ici, il faut évoquer, par exemple, les exécutions massives à Chimbulu, à Dibaya, dans des villages comme Mwanzalomba, dont nous avons de preuves aujourd'hui que nous avons affaire vraiment à des crimes contre l'humanité, crimes d'ordre international.
Les enquêtes sont menées, les gouvernements ont envoyé des magistrats sur place.
C'est une parodie d'enquête, des mises en scène, puisque le gouvernement congolais, le régime actuel, n'a jamais fait aboutir ces annonces d'enquête. Souvenez-vous qu'il y a eu le charnier de Maluku il y a quelque temps. Le gouvernement avait promis qu'une enquête allait s'ouvrir et qu'on aurait des résultats jusqu'à aujourd'hui. L'enquête n'a pas abouti. Et aujourd'hui, on découvre malheureusement qu'il y a pas moins de 13 fosses communes autour de Kananga et dans le terrain où il y a eu des opérations de ratissage par les éléments de l'armée, infiltrés par les éléments de la garde républicaine et même des miliciens, certains miliciens qui coopèrent avec le régime. Il y a vraiment une horreur. Pas moins de 500 personnes qui ont été exécutées et nous sommes sûrs qu'ils sont enfouis dans ces fosses communes dont les organisations internationales des droits de l'homme et ainsi que la MONUSCO, l'ONU ont de preuves tangibles que voilà, le régime a commis ces crimes contre l'humanité. il n'y a aucune famille des victimes qui s'est présentée à ces auditeurs qui ont été déployés à Kananga, à Mbujimayi. Tout simplement, les villageois, les victimes, sont allés se réfugier dans des forêts, etc. Ils ne peuvent pas faire de grandes sorties de la forêt, faire des grandes distances de 100, 150 kilomètres, aller vers ces auditeurs-là. Et ceux-là qui ont envoyé et réprimé cette population.
J'ai suivi le porte-parole du gouvernement qui disait que ces fosses communes, qui seraient nombreuses, seraient le fait de ces insurgés.
Comment on peut arriver à d'exécution et à une sorte d'organisation pour enfouir tous ces corps dans pas moins de 15 fosses communes, là où le régime Kabila est censé gérer les personnes et les biens. C'est grave, où il y a une complicité pour peut-être exécuter, éliminer les populations des provinces qui sont aujourd'hui hostiles au régime et qui veulent une chose, l'alternance démocratique et le départ du président Kabila.
Paul Nsapou, le secrétaire général de la Fédération internationale pour les droits de l'homme pour l'Afrique, lors de son passage à Washington.
VOA Afrique, 24 heures sur 24, à Kisangani, en RDC, sur 97.7 FM.
En République centrafricaine, et selon le rapport publié par Human Rights Watch, plusieurs enfants sont incapables d'aller à l'école en raison de la présence de groupes armés. Pour un état des lieux, Solange Niamoulissa a joint Loïs Madj, chercheur de la division Afrique à Human Rights Watch.
Il y a toujours des écoles qui sont bloquées, qui sont affectées par rapport aux groupes armés. Comme vous savez, la crise a déclenché en RC en 2013, donc ça fait 4 ans déjà. Et depuis là, il y a une ouverture scolaire. Donc il y a quelques écoles qui étaient capables d'ouvrir. Mais ce que nous avons documenté, il y a plusieurs qui n'étaient pas capables. Donc les Nations Unies, à ce moment-là, estimaient qu'il y a 20% de les écoles en RCA qui sont fermées. Pourquoi ? Nous avons documenté quelques raisons. Première raison, c'est qu'il y a des écoles qui sont toujours occupées par des groupes armés. Donc, leur présence dans l'école empêche les étudiants d'y aller. Deuxième raison, c'est la proximité de le combattant d'une école. Donc, même si des combattants, le groupe armé, même s'ils ont quitté la zone scolaire, ils sont tout près. Donc, ils empêchent des étudiants et des enseignants d'y aller. Et troisième raison, c'est que nous avons documenté plusieurs écoles qui étaient détruites, qui étaient affectées par les groupes armés dans ce cadre-là. Donc, vous avez des combattants qui ont brûlé les tables bancs, qui ont brûlé des livres scolaires, qui ont détruit les tôles.
Et quels sont ces groupes armés, au fait, qui occupent les écoles ?
Actuellement, ils sont des Seleka. Ils contrôlent un vaste territoire dans le centre et est du pays.
Et dans quelle zone se trouvent ces écoles que vous avez répertoriées?
La zone principale, c'est la province de Wam. Donc ça, c'est nord-est de Bosangoa. La province de Namagribizi, où se trouve la ville de Kagabandoro et Mbré. Et la province de Lawaka, où se trouve le groupe de Seleka, le UPC, le groupe de Aledarasa. Et eux-mêmes, ils sont en train d'occuper les écoles. Il faut souligner que même si c'est les Seleka qui sont actuellement en train d'occuper les écoles, nous avons documenté l'état des écoles qui étaient occupées par l'anti-Balaka. Et aussi, nous avons documenté quelques cas où le soldat de la force maintien de la paix, eux-mêmes, dans deux cas que nous avons documentés, eux-mêmes, ils ont occupé des écoles.
Que dites-vous des forces de la mission des Nations Unies qui occupent certaines écoles? Parce que c'est contre les résolutions des Nations Unies.
Bien sûr. Pour nous, il y a deux choses. La première chose, c'est qu'en 2016, le MINUSCA, ils ont lancé une campagne d'essayer de vider des écoles de les groupes armés. Mais deuxième chose, d'occuper une école comme le casque bleu, comme le soldat de MINUSCA, ça c'est contre la règle des Nations Unies.
Alors, que faire pour déloger ces groupes armés qui occupent les écoles?
Mais le problème, c'est que les groupes armés sont seulement quelques mètres de la parcelle de l'école. Et deuxième chose, nous avons parlé avec les Seleka qui ont dit que lorsque la saison pluvieuse commence, et ça c'est dans quelques semaines, ils vont réoccuper les écoles.
Loïs Madj, chercheur de la division d'Afrique à Human Rights Watch.
Votre rendez-vous quotidien sur VOA Afrique à Bangui, c'est sur 101.7 FM en République centrafricaine.
Au Cameroun, alors que le RDPC fête ce 24 mars 32 ans au pouvoir, l'opposition, quant à elle, reste profondément divisée sur le choix d'un candidat unique pour l'élection présidentielle de 2018. Un mouvement de la société civile dénommé Alternance 2018, créé par Florent Nzana, s'est pourtant proposé d'organiser en mars 2017 les toutes premières primaires de l'opposition camerounaise. Mais son initiative reste jusqu'ici lettre morte. De Yaoundé, explication de notre correspondant Emmanuel Juntap.
C'est le 15 mars dernier que devaient débuter les primaires en vue du choix du candidat de l'opposition camerounaise à l'élection présidentielle de l'an prochain. La date du 15 mars avait été arrêtée depuis 2016 par le mouvement de la société civile Alternance 2018, mais n'a pas été respectée à échéance. Marie-Jeanne Abega, déléguée régionale du mouvement Alternance 2018 pour la région du centre à Yaoundé.
Les primaires sont toujours en vue. Nous nous sommes heurtés à beaucoup de barrières administratives, la réticence de certaines personnes, mais les gens sont d'accord avec l'organisation des primaires. Les partis leaders nous ont dit qu'ils vont d'abord se concerter, ils nous reviennent dans quelques instants, donc on attend.
L'échec à la candidature unique de l'opposition avait déjà été enregistré en 2004 au Cameroun. John Frundi du SDF avait rejeté le choix porté sur son adversaire Adamou Ndamdjoya de l'UDC. Depuis lors, les principales forces politiques de l'opposition sont divisées, comme l'explique Ndjoya Moussa, politologue.
Les acteurs qui dominent actuellement les grands partis d'opposition nourrissent d'éléments de méfiance et de défiance entre eux. Deuxième chose maintenant, au sein des grands partis, le SDF estime que tout regroupement de l'opposition ne peut se faire qu'autour du SDF. Or, d'aucuns estiment que le SDF est même le principal problème de l'opposition.
Le SDF assume et mérite son leadership politique au sein de l'opposition camerounaise, confie sous anonymat un cadre du parti. Pour sa part, l'Union pour la Fraternité, l'UFP, de Olivier Billet, adhère à Alternance 2018. Mais à une condition.
Nous sommes des acteurs politiques qui sont désireux d'apporter une dynamique nouvelle pour l'avenir. Nous voulons orchestrer cette nouvelle politique et elle doit donc commencer à partir de maintenant par ce mécanisme de la primaire qui pour nous est une condition absolument non négociable.
Le Cameroun People Party accueille avec moins d'enthousiasme l'option de présenter un candidat unique de l'opposition. Edith Kawala, président du CPC, préconise plutôt un autre champ de bataille.
Il est important en tant que Camerounais que nous établissons les bases pour pouvoir faire des élections en bonne et due forme. Une élection à deux tours créer automatiquement le candidat unique sur la base de l'expression des voix des citoyens.
Avec tant de divergences, certains Camerounais sont sceptiques au sujet d'une candidature unique de l'opposition lors de la présidentielle de 2018.
Lorsqu'on regarde le profil des opposants, chacun essaie de sauvegarder son intérêt au détriment des intérêts de toute la population.
L'opposition même au Cameroun est une opposition qui va avec les replis identitaires. Partant de cela, ça devient difficile.
Malgré tout, le mouvement Alternance 2018 reste déterminé à mettre l'opposition camerounaise face à ses responsabilités. Yaoundé, Emmanuel Juntap, VOA Afrique.
Dans la prochaine édition de Votre Santé, Votre Avenir, nous parlons de l'épidémie de paludisme au Burundi.
Depuis le début de l'année, près de 2 millions de personnes ont été infectées et environ 700 personnes ont déjà perdu la vie selon les autorités sanitaires.
Pour nous aider à comprendre les raisons de ce désastre sanitaire, nous recevrons comme invité M. Mbonerane Albert. Il est président de l'association Action de lutte contre la malaria au Burundi.
Nous écouterons le témoignage du Dr Dionis Nizigimana, directeur du programme national intégré de lutte contre le paludisme au ministère burundais de la Santé. Il nous dira ce qui est fait pour combattre l'épidémie.
Votre santé, votre avenir est un programme de VOA Afrique diffusé tous les samedis, les dimanches et les mercredis à 8h30, temps universel.
Ne manquez pas le rendez-vous.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. Merci aussi à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sidoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.